Voyons, la douleur n'est-elle pas le contraire du plaisir? Oui, n'est-ce pas aussi un état de l'âme que de n'éprouver ni plaisir ni douleur? Je le pense, oui. N'appelles-tu pas cela un état intermédiaire entre les deux autres, dans lequel l'âme se trouve à l'égard de l'un et de l'autre dans une sorte de repos? Oui. Te rappelles-tu les discours que tiennent les malades dans les accès de leur mal? Quel discours? Qu'il n'est rien de plus agréable que la santé, mais qu'il n'en connaissait pas tout le prix avant d'être malade. Je m'en souviens. N'entends-tu pas dire à ceux qui éprouvent quelque violente douleur qu'il n'est rien de plus doux que de ne plus sentir de douleur? Cela est vrai. Et tu conçois, je pense, beaucoup d'autres circonstances semblables où les hommes qui souffrent regardent comme le plus grand bonheur, non le plaisir lui-même, mais la cessation de la douleur et le sentiment du repos. Oui, c'est qu'alors peut-être le repos devient doux et aimable. Par la même raison, la cessation du plaisir doit être une douleur pour celui qui éprouvait auparavant du plaisir. Oui, peut-être. Ainsi, ce calme de l'âme que nous disions tout à l'heure tenir le milieu entre le plaisir et la douleur nous semble à présent être l'un et l'autre. Il en a l'air. Mais est-il possible que ce qui n'est ni l'un ni l'autre soit tout ensemble l'un et l'autre? Je ne le pense pas, Socrate. Le plaisir et la douleur ne sont-ils pas l'un et l'autre un mouvement de l'âme? Oui, Socrate. Or, ne venons-nous pas de reconnaître que cet état, où l'on ne sent ni plaisir ni douleur, est un repos de l'âme et quelque chose d'intermédiaire entre ces deux sentiments? Il est vrai. Comment donc peut-on croire raisonnablement que la négation de la douleur soit un plaisir, et la négation du plaisir une douleur? On ne le peut pas, Socrate. Par conséquent, cet état n'est en lui-même ni agréable ni fâcheux, mais on le juge agréable par opposition avec la douleur, et fâcheux par opposition avec le plaisir. Dans tous ces fantômes, il n'y a point de plaisir réel, ce n'est qu'un prestige. Ouais, c'est du moins ce que le raisonnement démontre. Maintenant, pour que tu ne sois plus tenté de croire qu'en cette vie, la nature du plaisir et de la douleur se réduit à n'être l'un que la cessation de la douleur et l'autre que la cessation du plaisir, considère des plaisirs qui ne viennent à la suite d'aucune douleur. Quels sont-ils? Et où les trouver? Ils sont en grand nombre et de différentes espèces. Par exemple, fais attention, je te prie, au plaisir de l'odorat. Cela se produit immédiatement, avec une vivacité inexprimable, sans avoir été précédé d'aucune douleur. Et lorsqu'ils viennent à cesser, ils ne laissent aucune douleur après eux. Oui, cela est très vrai. Ne nous laissons donc pas persuader qu'il puisse y avoir un plaisir pur ou une douleur pure là où il n'y aurait qu'une cessation de douleur ou de plaisir. Non. Et pourtant, ceux des plaisirs qui passent dans l'âme par le corps, c'est-à-dire peut-être les plus nombreux et les plus vifs, sont de cette nature? Ce sont de véritables cessations de douleur. J'en conviens. N'en est-il pas de même de ces plaisirs et de ces douleurs anticipées que cause l'attente? Oui. Sais-tu ce qu'on doit penser de ces plaisirs? Et à quoi on peut les comparer? À quoi? Tu admets probablement dans les choses un haut, un bas et un milieu. Oui, eh bien. Quelqu'un qui passe d'une position inférieure à une région moyenne, ne doit-il pas se figurer qu'il monte en haut? Et lorsqu'étant arrivé au milieu, il viendrait à jeter les yeux sur le terme d'où il est parti. Quelle autre pensée pourrait-il avoir sinon qu'il est en haut, parce qu'il n'a pas encore vu la région véritablement haute? Je ne crois pas qu'il pût s'imaginer autre chose. Et si de là il retombait, il croirait retourner vers le bas, et sans doute il ne se tromperait point. Non. Toute son erreur résulterait de l'ignorance où il est de ce qui est véritablement en haut, au milieu et en bas. Évidemment. Est-il donc surprenant que des hommes qui ne connaissent pas la vérité se forment des idées fausses de mille choses, entre autres du plaisir, de la douleur et de ce qui tient le milieu entre l'un et l'autre? Ainsi, lorsqu'ils passent à la douleur, ils croient souffrir et souffrent en effet. Mais lorsque, de la douleur, ils passent à l'état intermédiaire, ils se persuadent qu'ils sont arrivés au terme et à la possession d'un plaisir positif. Trompés dans leur ignorance du vrai plaisir, par le rapport qu'ils aperçoivent entre la douleur et l'exemption de douleur. Tout comme si, ne connaissant pas la couleur blanche, ils comparaient du noir avec du gris. Oui, je ne suis nullement surpris de cela. Je le serais beaucoup plus qu'il en fût différemment. Bien. Réfléchis maintenant sur ce que je vais dire. La faim, la soif et les autres besoins naturels ne forment-ils pas des espèces de vides dans le corps? Oui. Pareillement, l'ignorance et la déraison ne sont-elles pas un vide dans l'âme? Soit.